Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ce drame à Paris où une petite fille de 3 ans a été retrouvée morte chez elle hier soir dans le lave-linge. Ses parents, ses frères et sœurs doivent être entendus. On y revient dès le début du journal. À suivre aussi, la Russie qui assure avoir achevé la conquête de Soledar en Ukraine. Clap de fin pour Place du Marché, l'ancien Tout-Pargel. La liquidation judiciaire est officiellement prononcée. L'économie toujours et le livret A, le placement préféré des Français qui va voir son taux de rémunération grimper dès le mois prochain, plus de 3%. Excellente nouvelle pour les épargnants. Oui, mais à pondérer avec le niveau de l'inflation. À l'arrivée, vous verrez, nous ne sommes pas vraiment gagnants. On en parle après le journal. Et puis, on attend le résultat du prix de la voiture de l'année. Et chanceux que nous sommes, nous en parlerons avec un membre du jury. Christophe Bourreau, on espère que vous allez nous annoncer le gagnant aux alentours de 12h40.
Exactement. Alors, il y a 7 voitures finalistes qui se disputent ce prix très prestigieux, dont 2 françaises, la Peugeot 408 et la Renault Austral version hybride. Donc, on va dire.
Et la Peugeot 408, elle est nouvelle, elle
existe. Oui, c'est la nouvelle Peugeot 408.
Ah bon, voilà.
RTL est toujours plus proche de vous, en tout cas dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui à Fontainebleau, où on partira sur les traces du loup. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Vous avez joué au loto, Pascal, ce matin?
Non.
Nous sommes le vendredi 13.
Oui.
Jour de chance ou pas? Pourquoi attache-t-on autant d'importance d'ailleurs à ces vendredis 13? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? On vous dira tout et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Vendredi 13, êtes-vous superstitieux? Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Vendredi lecture, aujourd'hui, Bernard Lehu viendra nous parler des finalistes du Grand Prix RTL Lire.
Et évidemment, tous ces sujets, nous les aborderons avec les auditeurs. On parlera également de Ménie Grégoire. Vous n'étiez pas né lorsqu'il y avait Allô Ménie. Peut-être votre mère, votre grand-mère appelait Ménie Grégoire et c'était une sommité de la radio et d'RTL.
Avance à la météo avec vous aujourd'hui, Anthony Kazmarek, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Régime d'averse pour tout le monde, de la neige enfin sur les reliefs de l'Est et puis épargner toujours le littoral méditerranéen avec du soleil et toujours de la douceur pour tout le monde encore.
Merci Anthony, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Elle avait 3 ans, une petite fille a été retrouvée morte hier soir chez elle à Paris, retrouvée Maxime Lévy à l'intérieur du lave-linge.
Oui, après de longues recherches dans l'appartement et dans l'immeuble, c'est apparemment l'un des frères de la jeune fille qui l'a retrouvée inanimée, vous l'avez dit, dans la machine à laver familiale, la porte apparemment fermée. Une source policière nous indique que son corps ne présentait aucune trace de coups, de blessures visibles. Selon les premières constatations, une autopsie permettra donc d'en savoir plus. C'est d'ailleurs pour cela que le parquet de Paris a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, des investigations confiées à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. Les circonstances de la mort de cet enfant de 3 ans sont encore floues. Les enquêteurs vont devoir prendre le temps d'interroger tous les membres de la famille, les deux parents, mais également ses 4 frères et sœurs. Toutes les pistes sont envisagées, celle de l'accident, du jeu d'enfant qui aurait mal tourné sans fermer la porte, à un possible infanticide. Il faut donc rester prudent.
Merci beaucoup Maxime Lévy, service police-justice de RTL.
RTL Midi.
Il ne se faisait guère d'illusions. Le couperet est définitivement tombé pour les salariés de Place du Marché, l'ancien Tout-Pargel.
La société de livraison à domicile de produits alimentaires est placée en liquidation judiciaire. 1900 personnes au total perdent donc leur emploi. C'est le cas de Louisa, employée depuis 8 ans sur le site de Villeurbanne dans le Rhône. Elle dénonce la gestion des nouveaux dirigeants.
De la colère et de la déception, mais beaucoup de colère. Quand c'était Tout-Pargel, l'entreprise familiale qui est née en 1947, donc avec tout cet esprit de famille, cette solidarité, très bonne ambiance de travail. Et puis après, la descente aux enfers a commencé quand Place du Marché est arrivée et qui nous a vendu du rêve en fait. C'est très très choquant ce qui s'est passé. En 3 mois, on arrivait là, c'est du gâchis. Tuer toute une activité pour le profit d'une élite et sacrifier 1900 personnes avec leur famille, avec leur carrière, c'est horrible. On veut une reconnaissance. Même si humainement ça va être compliqué, au moins avoir un dédommagement financier.
Des propos recueillis pour RTL par Peggy Liodno. L'inflation et ces chiffres qui confirment le ressenti de nombreux Français. Les prix ont encore augmenté en décembre, une hausse de 5,9% sur un an. Et en moyenne, sur toute l'année 2022, l'inflation est de 5,2%. C'est dans ce contexte que le taux de rémunération du livret A augmentera le 1er février prochain, au moins 3%. Bien, mais pas suffisant pour ne pas perdre d'argent. On y revient, on vous explique tout après le journal.
En Ukraine, l'armée russe dit avoir achevé la conquête de Soledar.
Une information qui n'est pas à ce stade confirmée par Kiev. Une certitude toutefois, l'affrontement dans cette petite ville de l'est de l'Ukraine est déjà présenté comme le plus sanglant depuis le début de la guerre, Bénédicte Tassar.
Oui, Moscou annonce avoir tué 700 Ukrainiens en 3 jours à Soledar. Des pertes qui seraient encore plus importantes côté russe. Kiev comptabilise 10 000 ennemis russes abattus rien qu'à Soledar, en plus des 10 000 à Barmout, juste à côté. Écoutez le témoignage enregistré hier soir sur les réseaux sociaux par ce militaire ukrainien.
La plupart des immeubles que nous occupons en première ligne sont attaqués. Cela fait 9 jours. Les pertes de l'ennemi dans cet assaut frontal sont très élevées. Ils attaquent nos positions avec de petits groupes d'infanterie et subissent donc de lourdes pertes. On tire sur eux de façon précise, on règle nos tirs. Et parmi les morts, la plupart sont des condamnés russes. Ce sont des mercenaires Wagner.
Quand on en tue 100 autres arrivent, raconte un autre soldat ukrainien. Les déplacements sur le sol gelé sont faciles, mais il est impossible de creuser des tranchées pour se protéger. Le balai des ambulances est incessant côté ukrainien. Côté russe, les corps des tués restent sur le terrain. Personne ne les ramasse, comme le prouvent les images des drones au-dessus de Soledar.
Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. En bref, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne est en hausse. D'après Frontex, l'agence européenne des frontières, 330 000 personnes sont entrées illégalement sur le territoire européen en 2022. Près de la moitié d'entre elles en empruntant la route des Balkans. Et puis aux États-Unis, Joe Biden plaide l'erreur après la découverte de nouveaux documents confidentiels dans sa maison de famille. Des documents que le président américain aurait dû restituer. On y revient dans le journal de 12h30. La météo, on vous retrouve Anthony Kazmarek pour un après-midi que vous nous annoncez agité.
Oui, après la pluie, les averses qui vont concerner presque tout le pays. Alors il y aura évidemment quelques passages ensoleillés, beaucoup de nuages aussi, des nuages qui seront plus nombreux et les averses plus fréquentes entre le Massif central, la région lyonnaise et les frontières de l'Est, avec de la neige, des 1000 mètres dans les Vosges, bonne nouvelle enfin, des 1200 mètres dans le Jura et des 1400 mètres pour les Alpes du Nord. Partout ailleurs donc, des averses aussi, moins nombreuses, du vent assez turbulent encore jusqu'à 80 km/h en rafale en bord de Manche, du vent aussi près de la Méditerranée, mais là vous aurez du soleil, que ça soit pour le Languedoc-Roussillon, PACA ou encore en Corse. Et puis épargnez aussi le sud de la Bretagne et la Vendée avec un temps sec mais de plus en plus nuageux. De la douceur encore, on est 3 à 5 degrés au-dessus des normales cet après-midi avec 7 degrés à Langres, 9 à Strasbourg, 10 à Lille et à Grenoble, 11 degrés pour Paris et Brest, 13 à Nantes, 14 à Bordeaux et Toulouse, 16 degrés à Marseille et encore 18 pour Perpignan et Fréjus.
Merci Anthony.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et nous allons partir pas très loin de Paris. Chaque jour, vous le savez, l'info plus près de vous. Et cette fois-ci, on est
à Fontainebleau. Bonjour Nicolas Bernand.
Bonjour.
Fontainebleau et sa forêt où un animal a été percuté par un automobiliste avant-hier. Animal qui pourrait bien être un loup, Nicolas.
Oui, dans cette forêt à 60 km de Paris, c'est là que le corps d'un grand canidé a été retrouvé par un automobiliste au bord d'une route, image partagée sur les réseaux sociaux. Il gisait au bord d'un rond-point et ressemble beaucoup à un loup, des petites oreilles, une queue courte, de longues pattes, une fourrure blanche sous la gorge. La dépouille est désormais entre les mains des scientifiques de l'Office français de la biodiversité. Une autopsie et des analyses ADN ont été pratiquées. Les résultats seront connus dans une quinzaine de jours pour savoir s'il s'agit bien d'un loup gris, une espèce protégée en France.
On sait qu'il y a beaucoup de promeneurs dans cette forêt. Est-ce que ça les inquiète ?
Eh bien, les promeneurs que j'ai croisés ce matin ont plutôt l'habitude de croiser des biches ou des chevreuils. Mais avec son chien en laisse, Joël avoue que désormais, elle fera plus attention.
Moi, je resterai dans un milieu très ouvert comme celui-ci. C'est-à-dire que je n'irai pas dans les sous-bois profonds. Je crois que je ne bougerai pas. Si on tourne les talons, c'est là qu'il peut attaquer. Maintenant, moi, il n'y aurait pas de loup, je serais tout à fait contente. Hein, parce que j'en ai peur. C'est une peur enfantine. Vous savez, on nous apprenait « Ah, le loup va te manger !» quand on était petit. Et donc, ça reste quand même.
Alors rassurez-vous, Pascal, le loup ne représente pas un danger pour l'homme. C'est un animal peureux qui vit loin des villes et qui ne s'attaque qu'au bétail. Il n'y a donc aucun risque lorsque l'on se balade en forêt.
Mais quand même, Nicolas,
vous êtes, oui, sans doute, mais si vous...
Faites confiance à Nicolas, Pascal.
Voilà, si vous arrivez face à un loup, vous pouvez être quand même d'abord surpris et apeuré.
C'est surprenant d'ailleurs, Nicolas, de voir un loup dans cette région.
Alors c'est vrai que l'essentiel des loups dans notre pays vivent en région PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes, un millier d'individus à peu près. Mais peu à peu, ces prédateurs se sont déplacés pour rejoindre les deux tiers du territoire, jusque dans le Finistère et la Normandie. En Ile-de-France, Olivier Guder est vice-président de l'association Férus, qui milite pour la protection du loup en France.
Les loups vivent en famille, une famille de loups, c'est ce qu'on appelle une meute. Et les jeunes louveteaux, quand ils ont l'âge généralement de 2 ans, quittent la meute, parce qu'une meute ne peut pas grandir indéfiniment, partent de façon indépendante plusieurs centaines de kilomètres pour trouver un nouveau territoire où il n'y a pas déjà des loups qui sont installés, pour trouver, si possible, un individu du sexe opposé pour fonder une nouvelle meute.
Si les analyses génétiques sont confirmées, la présence du loup serait officiellement validée en Île-de-France. En novembre 2021, déjà, un loup avait été photographié et authentifié dans le département des Yvelines, un siècle après sa disparition.
Merci beaucoup Nicolas Burnand à Fontainebleau, donc pour RTL.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, le livret A. On en parle avec Pierre Herbulot. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Oh, et si j'étais riche,
c'est qui ça, ça?
Non.
Vous ne savez pas?
Non.
Alors, Ivan, c'est drôle, Ivan Rebroff. Et dans les années 70, on le voyait régulièrement entre le 15 décembre et le 1er janvier. Ivan Rebroff, je ne sais pas s'il était vraiment russe, mais
le 15
en tout cas...
jours.
Oui, parce que c'était avant Noël, il venait chanter des chansons de Noël. Ivan Rebroff, il a eu un petit succès.
Comme quoi, on en apprend tous les jours avec vous, Pascal. Merci.
Sur ce qui s'est passé avant 80, oui, souvent.
Si ça vous fait rire, je vais vous parler de ce qui va se passer dans 15 jours maintenant, à partir du 1er février. Le livret A, le placement préféré des Français, va voir son taux augmenter sérieusement, au moins 3% de rémunération pour cette épargne, on le rappelle, disponible immédiatement. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Pierre, on n'avait pas vu pareil taux depuis très longtemps.
Oui, il faut remonter à 2009, et encore c'était 2,5% à l'époque. Depuis, le niveau de rémunération du livret A n'a quasiment jamais cessé de diminuer. Il est vite tombé à 1,25% en 2013, 1%, puis carrément 0,75% en 2015. Avec ça, c'est sûr, vous ne faites pas fortune.
Bon, 3% c'est pas mal, mais on ne peut pas mettre n'importe quelle somme sur le livret A.
C'est 22 950.
Voilà, il est plafonné, ça c'est important de le dire. Comment il se calcule le taux du livret A?
Alors, je vous laisse imaginer un tableau noir avec plein de formules mathématiques dessus. Franchement, c'est ultra technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le calcul du taux, il y a la prise en compte de l'inflation. Résultat, plus la vie coûte cher, plus le niveau de rémunération augmente. C'est pour ça qu'on va connaître là, donc début février, la troisième augmentation en un an seulement. Alors, pour rappel, on est passé à 1% en février 2022, à 2% l'été dernier. Là, on parle de 3,3%, donc dès le début du mois de février. C'est un changement important dans le sens où ça concerne beaucoup de monde. Selon le dernier décompte de la Banque de France, 55 millions de Français ont un livret A, c'est plus de 80% de la population. Dessus, il y a 319 milliards d'euros de déposés. Donc 3,3%, ce serait bien. Après, c'est évidemment à mettre en confrontation directe avec donc le coût de la vie évidemment et l'inflation. 5,9% le mois dernier, pas besoin d'être un génie des maths pour comprendre que ça ne suffit pas.
Oui, c'est-à-dire que même avec 3,3% de rémunération sur le taux du livret A, on perd de l'argent aujourd'hui si on le place.
C'est sûr qu'on s'en sortirait mieux avec un livret A à 0,25%, mais pas d'inflation du tout. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc j'ai fait, moi, mes petits calculs pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça va changer. Alors, si le plafond du livret A est à 22 950 euros, on en parlait Pascal, le montant moyen en France, c'est 5 800 euros. L'an dernier, à 2%, ça vous rapportait à la fin de l'année 116 euros d'intérêt. Cette année, en passant de 2% à 3,3%, on se dirige vers 75 euros supplémentaires d'intérêt. Ça veut dire que en augmentant le taux de rémunération du livret A, on gagne, on va dire, un plein d'essence
sur un an.
C'est bien, mais ça compense pas l'inflation, loin de là même.
Pierre, si j'ai un peu d'épargne aujourd'hui, si j'ai cette chance-là, avec une inflation, on le rappelle, à près de 6% là, en décembre dernier, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois placer? Où est-ce que je peux placer mon argent pour, si j'en gagne pas, au moins en perdre le moins possible?
Alors, ça dépend évidemment de vos revenus. Et si vous avez de quoi remplir ce livret A, les intérêts sur un an, donc avec le plafond, c'est quand même déjà plus intéressant, c'est 400 euros. Surtout, l'avantage, vous le disiez tout à l'heure, du livret A, c'est qu'il a une flexibilité qui est unique, c'est-à-dire qu'on y met ce qu'on veut quand on veut, on retire ce qu'on veut quand on veut, c'est gratuit, et surtout, les intérêts sont défiscalisés. Donc en fait, c'est une sorte de très grosse tirelire, et c'est pour ça que c'est celui qui est le livret préféré des Français.
C'est défiscalisé les intérêts du livret?
Absolument. Absolument.
Ah oui, non, c'est important de le dire.
Oui, bien sûr, c'est un livret qui est, j'allais dire, unique, mais pas totalement non plus. Parce que
c'est plafonné à 22 000 euros, quoi, 23 000.
C'est vrai, mais il a aussi un petit cousin qui s'appelle le LEP, qui est le livret d'épargne populaire, et qui fonctionne exactement de la même façon, mais qui est sous condition de ressources. Et alors celui-là, il est encore plus intéressant parce qu'il était rémunéré un peu plus de 4% depuis le début de l'été. Il va passer à 6% là, au mois de février. Donc là, pour le coup, celui-là, il est extrêmement intéressant. Il est à peu près au niveau de l'inflation, mais il est effectivement sous condition de ressources. Donc là, il ne faut pas gagner plus de 3 500 euros net pour une famille avec deux enfants, mais c'est important de le dire et d'en parler de ce livret parce qu'il est assez méconnu et seulement 4 Français sur 10 qui sont éligibles ont effectivement un LEP. Et parmi ces Français-là, il y en a qui ont un livret A. Donc il faut qu'ils demandent à leur banquier absolument, est-ce que je suis éligible à ce livret, et le privilégier à tout prix quand c'est possible.
Et puis il y a des placements plus hasardeux, bien sûr,
et
la bourse.
Après, il faut faire attention. Avec
casino.
Ça. Il faut comprendre ce qu'on fait.
Je ne sais pas si casino, c'est un placement, Pascal.
L'euro million.
Il y a l'assurance vie aussi, mais même l'assurance vie, faut se méfier parce qu'il y a.
Mais on ne peut pas sortir dans l'assurance vie.
On peut. Alors, si j'ai bien compris, on peut, mais c'est davantage taxé si on n'attend pas 8 ans.
Effectivement, il y a la CSG, il y a plusieurs plafonds de fiscalité quand on a plus de 150 000 euros, quand on a plus de 70 ans, pardon. Oui. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Il faut comprendre avant.
Révélateur.
De mettre son argent dessus.
Voilà. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Cette hausse donc du taux du livret A, ce sera dès le 1er février, on le rappelle, un peu plus de 3%. Merci Pierre.
Nous sommes le vendredi 13. Pourquoi ce jour n'est pas tout à fait comme les autres? Pour tout dire, moi j'ai le sentiment que ce vendredi 13 ces dernières années est vraiment marqué par le vendredi 13 novembre 2015 et qu'il est dans nos mémoires. C'est pourquoi il est aujourd'hui très sombre, souvent ce vendredi 13. On en parle dans une seconde, en tout cas, tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13. Le vendredi 13 avec son lot de superstitions. Et pour en parler, nous sommes avec Roger Mauduit, folkloriste, auteur de...
Folkloriste?
Oui.
Je ne savais pas que c'était une profession.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Mauduit.
Bonjour. Bonjour. Et oui, c'est une profession. Il n'y en a plus beaucoup, mais c'est encore une profession.
Mais c'est quoi un folkloriste?
C'est quelqu'un qui travaille sur le folklore. C'est un anglicisme. C'est le savoir du peuple. C'est tout ce qui est immatériel. Les légendes, les contes, les dictons, les croyances, les superstitions, les saints protecteurs, la médecine populaire, enfin tout cela.
Alors justement, à propos des superstitions, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du vendredi 13? Pourquoi c'est un jour considéré comme particulier?
C'est un jour particulier qui est considéré comme néfaste par la plupart des gens, par quelques personnes comme bénéfique. La preuve, la Française des Jeux fait de la publicité pour les vendredis 13. En fait, ça peut remonter au Christ, qui avant d'être crucifié, à manger avec ses 12 apôtres, donc ils étaient 13 à table. Ça peut aussi remonter à l'arrestation des Templiers, à un ordre très, très puissant qui paraissait immortel et éternel, et les Templiers ont été arrêtés le vendredi 13. Ça peut jouer... Il y a plusieurs explications possibles, en fait.
Il n'y en a pas une sur laquelle on est d'accord. En revanche, comment est-ce qu'on peut expliquer que pour certaines gens, le vendredi 13 est positif et pour d'autres, négatif? Je pense par exemple à Claude Lelouch. Claude Lelouch, il a fait du chiffre 13 et du vendredi 13 quasiment un emblème.
Oui, pour certains, c'est bénéfique. Pour d'autres pas, c'est une expérience personnelle, une expérience familiale. S'il est arrivé quelque chose de bénéfique à un de vos parents, à un 13, ben pour vous, le chiffre est bon. un Américain évitera d'habiter l'appartement 13 ou au 13e étage. Si bien que dans certains immeubles à New York, moi j'ai vu qu'on passait directement du 12e au 14e étage. Pas très loin de nous, à Paris, encore jusqu'en 1914, les transports en commun voyaient beaucoup d'usagers, ne voyaient pas justement tous leurs usagers habituels le vendredi 13. Les gens restaient chez eux.
Mais dans les avions, parfois, il n'y a pas de rangée 13 ?
Dans certaines compagnies, il n'y a pas de rangée 13. Oui, c'est exact. Oui, c'est une superstition qu'on retrouve au plus haut des, y compris chez des gens rationnels, qui est rationnel, pourtant scientifique, etc. Mais tous ces gens-là sont aussi bardés de superstitions. À la NASA, par exemple. À la NASA, maintenant, on a pris l'habitude de manger des cacahuètes pour porter bonheur au lancement de la navette ou de l'engin qu'on va lancer. Parce qu'un jour, après une série d'échecs, on a mangé des cacahuètes pour tromper son impatience, sa nervosité. Et là, tout a bien marché.
Mais vous parliez d'exemples aux États-Unis, dans l'aviation. Ça veut dire que c'est universel, cette croyance autour du vendredi 13. Ce n'est pas du tout lié à la société française.
C'est européen, je vais dire, occidental. Donc ça a été transporté par les colons qui sont allés en Amérique du Sud, en Australie, au Canada, aux États-Unis, etc. Non, ce n'est pas proprement français. Le vendredi 13 est maléfique aussi pour pas mal d'autres peuples européens, les Suisses, les Danois, les Belges. Mmh. Oui, je veux dire que c'est européen quand même.
Bon, je disais tout à l'heure le vendredi 13, évidemment, le 13 novembre 2015, personne n'a oublié et forcément le rapport qu'on a aussi à ce vendredi 13 est lié à cette drame absolu. Est-ce que vous diriez que nous avons tous besoin de croire en des choses paranormales parfois ?
Oui, parce que c'est rassurant. Nous avons besoin. L'homme est un animal craintif, c'est un animal peureux qui a peur. Et qu'il soit dans la jungle, dans la steppe, dans le désert, c'est un homme qui craint, qui a peur de différentes choses. Et tous les hommes ont la crainte ultime, celle de la mort. Donc ils ont besoin de croyances, de superstitions pour se rassurer. Certains touchent du bois quand vous leur parlez de quelque chose. C'est une croyance que vous retrouvez aussi à l'Académie française. Jean Dutour disait que quand on disait toucher du bois, il voyait les mains qui bougeaient vers les dossiers des fauteuils. Donc, vous voyez, les plus grands d'entre nous sont superstitieux.
Eh bien, merci beaucoup, Roger Mauduit. Je rappelle que vous êtes folkloriste, donc, mais également l'auteur de Arbre, Histoire, Légende et Croyances aux éditions de Boré. Merci beaucoup d'être venu avec nous sur tous ces mystères autour de ce vendredi 13 qui nourrit tant de discussions. Merci.
J'imagine que ce soir, c'est vendredi, il y a un euro-million et également un loto. Et celui ou celle qui gagnera ce soir avec ce vendredi 13 aura sur ce jour et sur ce chiffre forcément quelque chose de positif.
On devrait peut-être faire une grille ensemble, Pascal, non ?
Vous pensez vous avez de la chance ?
Bah, je joue pas d'habitude, mais peut-être que vous me porterez chance.
Ça, effectivement, pour gagner, faut.
C'est un bon départ.
Bon départ. 12h26, à tout de suite, l'info revient.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition, Céline.
Pronostic vital engagé dans la Nièvre. Le département tout entier est un désert médical et les soignants, en tout cas ceux qui sont encore sur place, s'en alarment, vous l'entendrez. Un jeudi noir en perspective dans les transports, au moins la semaine prochaine, le 19 janvier donc. Ce sera le premier grand test pour les opposants à la réforme des retraites. À suivre également la politique et le Parti Socialiste qui se déchirent. La Russie qui assure avoir conquis conquis la ville de Soledar en Ukraine. Et puis les stations de ski françaises qui s'adaptent face au manque de neige, bien obligées de se réinventer, vous l'entendrez. Juste après le journal, il a voté, il viendra nous en parler. Christophe Bourou reviendra sur l'élection de la voiture de l'année. Il pourra d'ailleurs peut-être nous révéler le nom de la grande gagnante. Et puis juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture, rendez-vous lecture aujourd'hui. Bernard Lehu viendra nous parler des finalistes du Grand Prix RTL Lire. La question du jour à présent sur notre site rtl.fr, on vient d'en parler, nous sommes le vendredi 13. Êtes-vous superstitieux ?
On parlera évidemment de tous ces sujets, notamment celui-là. On sera avec Jean Didier, qui est médium, expert du paranormal et auteur du livre « Attirer la chance et le succès ». On espère qu'il nous donnera tout à l'heure les numéros de l'Euromillion de ce soir.
Il va falloir partager le gain. Si tous nos auditeurs jouent les numéros gagnants, ça ne va pas faire beaucoup à l'arrivée.
On espère qu'il me les donnera personnellement.
D'accord. La météo à la fin du journal avec vous, Anthony Kaczmarek, mais déjà un indice.
Beaucoup d'averses, beaucoup de vent, de la neige sur les reliefs de l'Est et toujours de la douceur, mais ça changera dès dimanche.
Merci Anthony, la météo complète à la fin du journal.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Mieux vaut être en bonne santé aujourd'hui si vous habitez la Nièvre, car pour ceux qui ont la mauvaise idée de tomber malade, d'avoir besoin d'un suivi médical, consulter relève souvent du parcours du combattant. Le département tout entier est un véritable désert médical, Nathan Bocard. Et les soignants en sont certains, cela entraînera forcément des décès.
Oui, car les patients dépendent désormais d'une poignée de soignants. Dans le département, on compte un généraliste pour 2000 habitants. Conséquence, près d'une personne sur cinq n'a plus de médecin traitant. Du côté des spécialistes, c'est encore plus alarmant. Un seul rhumatologue pour toute la Nièvre et aucun dermatologue sur tout le département. Un exemple est particulièrement frappant, c'est la commune de Lamachine, 3300 habitants. Un seul médecin qui partira cet été à la retraite. Avec son départ, les temps de trajet pour trouver un médecin vont s'allonger et Nadine Benoît, infirmière sur la commune, craint le pire.
10 à 20 km pour avoir des médecins traitants, jusqu'à Nevers même, certains. C'est à 30 km. En plus, c'est une population qui est vieillissante, qui ne se déplace pas facilement. S'ils ne peuvent pas consulter, il n'y a plus le suivi, on n'a plus autant de bilans, on a moins de dépistage. Donc, automatiquement, les maladies vont évoluer et donc plus de décès, c'est certain.
Il faudra donc renvoyer encore plus de malades vers les urgences, mais l'hôpital le plus proche, à Nevers, est lui aussi en pénurie de personnel, à tel point qu'un pont aérien va être mis en place. Chaque semaine, des soignants de Dijon, à 200 km de là, viendront en avion prêter main forte à la Nièvre.
Merci beaucoup Nathan Bocard. On vous en parlait dans le journal de 12h. Une petite fille de 3 ans a été retrouvée morte hier soir chez elle à Paris, son corps découvert dans le lave-linge. L'ensemble de la famille doit être entendu par les enquêteurs pour tenter de comprendre les raisons de ce drame.
RTL Midi.
J-6 avant le grand test de la mobilisation contre la réforme des retraites.
Les opposants se sont en effet donné rendez-vous le 19 janvier pour une première journée d'action. Tous les syndicats seront mobilisés. Des préavis de grève ont d'ores et déjà été déposés dans les raffineries, à la SNCF, à la RATP. Les transports donc très touchés, Pierre Herbulot. Et l'aérien dont on n'a pas parlé jusque-là ne sera peut-être pas épargné.
Non, c'est sûr. Depuis le début de la semaine, le SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne, sonde sa base. Le ton est donné dans un document interne que RTL s'est procuré. Un non franc, net et massif à la réforme des retraites, peut-on lire en rouge en haut du tract. Le SNPL usera de tous ses moyens pour faire entendre ses arguments, précise le texte quelques lignes plus bas. Contacté, le syndicat affirme n'avoir déposé aucun préavis de grève pour l'instant. Bon, en même temps, il appelle quand même les pilotes qui le peuvent à participer à la manifestation du 19. Ça, c'est pour donc les pilotes, mais il y a aussi les contrôleurs du ciel qui pourraient débrayer. Un syndicat de l'aviation civile a déposé un préavis, lui, pour le 19. Et puis, si l'aérien est à l'arrêt, ça ne laissera pas beaucoup de marge de manœuvre pour se déplacer jeudi prochain, puisqu'on le sait déjà, vous l'avez dit, les voyages en train seront délicats avec le préavis de grève de la SNCF. Pour les routes, il faut des voitures et donc du carburant. Là, ce sont les raffineries qui débrayent et on a tous en mémoire ce qui s'est passé à l'automne dernier.
Effectivement, on n'a pas oublié. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Liquidation judiciaire confirmée pour Place du Marché, l'ex Toupargel, spécialiste de la livraison à domicile de produits alimentaires. 1900 emplois sont donc de fait supprimés.
On en parlait il y a quelques minutes, le taux de rémunération du livret A devrait dépasser les 3% dès le mois de février.
Du jamais vu depuis 2009, mais un taux qui reste malgré tout nettement inférieur à l'inflation. Elle était encore en décembre de 5,9% sur un an.
La politique
jusqu'à présent et ce psychodrame au Parti Socialiste.
Et comme aux grandes heures de la rue de Solferino, voilà l'appareil socialiste qui se déchire au moment d'élire son nouveau premier secrétaire. Olivier Faure, le sortant, revendique la victoire à l'issue du premier tour qui se tenait hier, mais une victoire très contestée, Marie-Bénédicte Allaire.
Ben oui, les militants étaient appelés à départager 3 candidats pour répartir le poids des différentes sensibilités au sein de la direction du PS. Et le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, revendique effectivement une courte majorité, 50,5% des voix. Chiffre immédiatement contesté par Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, qui arrive deuxième avec un peu plus de 30%.
Comme je l'ai dit, la direction sortante, elle est extrêmement fragilisée, elle ne fait plus consensus, elle n'est plus majoritaire, elle est selon toute vraisemblance minoritaire et dans tous les cas, elle est dans une situation qui ne la rend plus en capacité de diriger le parti.
Pour lui, Olivier Faure fait au mieux 48%. Les bulletins sont en train d'être recomptés. Ce que tout ça montre, c'est la fracture entre un camp pro-NUP et ceux qui craignent que le PS soit effacé par l'Alliance. En tout cas, les militants revotent jeudi prochain pour choisir cette fois le premier secrétaire entre Faure et Mayer-Rossignol. Et le challenger veut convaincre, qu'il veut croire qu'il peut créer la surprise.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. Franck Leroy, le maire d'Épernay, vient d'être élu nouveau président de la région Grand Est. Il succède à Jean Rotner qui était démissionnaire.
En Ukraine, l'armée russe assure avoir entièrement conquis la ville de Soledar.
Oui, une information qui n'est pas confirmée à ce stade par Kiev, mais Moscou donc assure avoir réussi à conquérir entièrement la ville, et ça à l'issue d'une bataille féroce. Cette victoire serait la première victoire militaire pour Moscou après plusieurs revers assez cinglants ces derniers mois.
Direction les États-Unis à présent avec cette découverte embarrassante et qui a fait sourire pour Joe Biden.
Des documents confidentiels ont été retrouvés dans un bureau et pas dans la Maison Blanche. Des documents, Lionel Gendron, qui n'avait clairement rien à faire là.
Non, dans un bureau qu'il occupait après sa vice-présidence, mais aussi dans son garage, dans sa bibliothèque. Joe Biden affirme qu'il ne savait pas, mais cette affaire change tout alors qu'il était dans une bonne dynamique après les élections de mi-mandat. Exemple, hier, il tenait une conférence de presse pour commenter les bons chiffres de l'économie américaine. Autant vous dire que ces chiffres sont passés totalement inaperçus. Un journaliste de Fox News lui a demandé ce qui lui était passé par la tête de conserver de tels documents dans son garage, près de sa Corvette. Alors Joe Biden a commencé par dire que son garage d'abord était fermé, puis il a lu une déclaration, ce qui est assez rare. Il a bien sûr dit que le ministère de la Justice ferait son travail, mais il était hésitant. Et ce qui risque d'être embêtant, c'est le manque de transparence. Parce que les avocats de Joe Biden ont découvert les premiers documents le 2 novembre, 6 jours avant les élections de mi-mandat. L'entourage a peut-être jugé politiquement préférable d'attendre. En tout cas, tout ça va coller à la peau de Joe Biden, même si sur le nombre d'affaires en cours, son adversaire Donald Trump a encore de l'avance.
Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.
Vous le savez, cette semaine RTL a pris de l'altitude dans nos stations de ski, confrontées à la pénurie de neige.
Oui, des températures en hausse, de la poudreuse plus rare. Un exemple, s'il en fallait un, cette mi-janvier, plus de la moitié des stations des Pyrénées ont dû fermer leurs pistes de ski. Alors, chez les professionnels du tourisme, on s'adapte et on anticipe ces situations qui risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Valentin Boisset, vous l'avez constaté à Métabier, dans le Doubs.
Oui, la survie économique, c'est l'enjeu. Environ 500 personnes dépendent du ski ici. Et aujourd'hui, typiquement, bah, il n'y a pas de neige. Alors il faut trouver d'autres produits d'appel, notamment pour les hôtels. Fabien Rousselet entreprend de gros travaux au sous-sol de l'Étoile des Neiges, l'un des deux établissements encore ouverts dans la station.
En ce moment, il y a un peu plus de vert que de blanc.
Je vois un petit écriteau piscine sauna juste derrière vous. C'est ça les activités qu'on peut proposer dans un hôtel, par exemple ?
On a une piscine, sauna, jacuzzi. Qu'il y a des hivers sans neige, on est obligé de s'adapter. Les clients sont là, il faut trouver une activité.
Une station en chantier, le parc d'Acrobranche s'agrandit, la cinquantaine de moniteurs de ski se forment à d'autres sports.
Les moniteurs un peu d'ici ont plusieurs cordes à leurs arcs pour emmener les gens aussi en vélo. Ils peuvent aussi faire un moniteur d'escalade.
L'objectif d'ici 2035, faire venir le touriste à l'année car le domaine skiable ne sera plus viable.
On avait des profs désespérés qui devaient faire du ski de piste.
C'est un peu compliqué de faire des activités en ce moment ici.
Il ne faut pas arriver avec une activité en tête, il faut s'adapter.
Mais la plupart des acteurs rencontrés l'avouent. Fidéliser la clientèle avec autre chose que le ski risque d'être compliqué.
Valentin Boisset à Métabier dans le Doubs pour RTL. La neige, justement, on vous retrouve Anthony Cazemarec. Il va en tomber cet après-midi ?
Oui, vraiment quelques flocons. Hein. Ça n'est pas grand-chose sur tous les reliefs de l'Est sous forme d'averses, des 1000 ou 1200 mètres. La vraie neige, ce sera à partir de dimanche en forte quantité et sans doute pour toute la semaine prochaine des 700 mètres. C'est une très bonne nouvelle. Mais donc aujourd'hui, quelques averses de neige seulement. Averses qui vont concerner concerner tout le pays, avec quand même des éclaircies, mais aussi beaucoup de nuages, du vent, assez turbulent encore, jusqu'à 80 km/h en rafale en bord de Manche, 60 dans les terres de toute la moitié nord, et puis une poche quand même d'éclaircies un peu plus belle entre la Bretagne et la Vendée, mais d'autres nuages arriveront dès ce soir, et puis toujours beaucoup de soleil entre les Alpes du Sud, le pourtour méditerranéen et la Corse. Les températures sont toujours aussi douces cet après-midi, ça changera aussi à partir de dimanche. On aura généralement entre 10 et 14 degrés et encore 16 à 18 près de la Méditerranée.
Changement de temps radical la semaine prochaine. On va retrouver le froid. Ça fait quasiment un mois qu'on est dans une certaine douceur. Et il va faire la semaine prochaine moins 1, moins 2, moins 3 à Paris au lever du jour. Et 3-4 dans la journée. Pas davantage. Faudra donc se chauffer dans les voitures. Et peut-être les voitures de l'année, monsieur Bourou.
Exactement. On vient de connaître le résultat.
On ne le dit pas. Non. Suspense. Espérons que ce soit une voiture française.
Suspense. Comme
on ne le
dites.
Dit pas.
Suspense.
12h41, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Suspense, disait Pascal juste avant cette courte pause. Suspense qui a assez duré, Christophe Brou, puisque vous êtes en mesure de nous révéler la voiture de l'année.
Et c'est une Jeep, la Jeep Avenger qui a gagné. Alors pourquoi Jeep ? C'est la première
Jeep
voiture
écolo,
électrique de la marque. Imaginez une Jeep.
Ah oui, parce que là vous me surprenez.
Alors c'est un petit SUV qui est assez sympa à conduire et qui fait partie quand même de Stellantis, donc c'est un petit peu côté français, puisque maintenant Stellantis a plusieurs marques, dont Jeep.
Vous arrivez à être chauvin avec une Jeep, c'est pas mal.
Mais elle est 100% électrique, votre
Alors,
Jeep.
Alors justement, il y a un petit bémol, à mon avis, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en numéro 1, moi, pour mon vote, mais il y a une version essence, mais la version essence n'est pas pour le marché français. Donc, cherchez l'erreur, mais en France...
Donc, la voiture française de l'année n'est pas pour le marché français.
Si, parce qu'en électrique, elle a un prix quand même assez intéressant.
C'est un concept.
Elle va être assez intéressante. C'est une petite voiture. Alors, elle est vendue cher, mais c'est le prix des électriques aujourd'hui. Vous allez me dire, tout est cher. On est sur plus de 35 000 euros. Mais franchement, elle est assez surprenante. Elle était outsider, parce qu'on ne la voyait pas comme favori. On pensait plutôt à l'ID.Buzz qui termine deuxième, je crois. L'ID.Buzz, c'est, vous savez, le combi façon 21e siècle. Mais on voit...
Bon, l'autonomie de cette Jeep, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, moi, dans les...
On a 400 km. Mais...
C'est pas
dans
beaucoup.
Les essais qu'on a réalisés.
Franchement, c'est pas beaucoup, parce que si c'est 400, en fait, ça doit être 300 quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a de la clim à l'intérieur.
Évidemment, évidemment. Bon. Mais ça, c'est valable pour...
Donc ça veut dire que si vous voulez faire un... C'est des voitures pour la ville aujourd'hui.
Voilà, ou alors, c'est ça. En revanche, il faut dire clairement les choses, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de dire tout électrique, c'est suivant son usage. Si vous faites de la ville, effectivement, c'est parfait. Pour un long trajet, là, c'est plus compliqué.
Parce que si vous faites, par exemple, 500 km, vous devez aller quelque part. Donc, le temps de recharge, c'est combien de temps ?
Alors, si vous êtes en recharge rapide, c'est une demi-heure.
Ça, oui, mais recharge rapide, c'est lié à la voiture ou lié à la recharge ?
C'est lié à la borne. Si vous avez des bornes de recharge rapide, il y en a.
Une demi-heure ? Vous arrêtez une demi-heure ?
Une demi-heure, et oui.
C'est pratique. C'est
sinon, si c'est une recharge lente à votre
Alors là, vous arrêtez deux heures. Nuit. Non.
Bah oui, c'est 8 heures pour une recharge entière sur une voiture électrique.
Je sens vraiment que vous allez le convaincre. Christophe, vous l'avez dit très discrètement.
35 000 euros en plus.
Puisque vous l'humilité vous caractérise, mais vous faites partie, et ça c'est assez exceptionnel, du jury qui a décerné ce prix de voiture de l'année. Vous venez nous dire que vous n'aviez pas forcément voté pour celle-là. Sur quels critères elle est choisie, la voiture de l'année ? Vous votiez à partir de quoi ?
Il y a un critère esthétique qui est aussi évident, et puis après on regarde la tenue de route, l'autonomie, ce qu'on ressent à l'intérieur de la voiture. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que justement, on le voit sur les 7 finalistes qu'il y avait, il n'y a que des voitures électrifiées. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était des diesels. Il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est quasiment que des voitures électriques. En tout cas, avec des versions électriques, par exemple les françaises, la 408 et la Renault Austral qui se placent relativement...
La Renault comment ?
Austral.
Austral.
Ce sont des voitures hybrides. Donc voilà, il n'y a plus de voitures 100% thermiques. Voilà.
Mais ça ne sent plus d'ailleurs, on n'a plus le droit de les vendre, les 100% thermiques.
Ah si, on a jusqu'à 2035, donc il y a encore le temps. Mais, puis,
parce que j'ai l'impression que tous les constructeurs proposent aujourd'hui des mixtes. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des 100% thermiques et ils ne les trouvent pas. Je pense à Audi, par exemple. J'ai l'impression qu'Audi n'a plus de thermique seul.
C'est le diesel qui est en train de disparaître de toutes les gammes. Mais les voitures essence représentent encore une bonne partie des ventes en France. France. Après, si on marche sur le marché de l'occasion, alors là, le diesel est encore, c'est 7 ventes sur 10, hein, faut pas oublier. Donc, ça reste encore très puissant. Mais c'est vrai que les constructeurs, le temps qu'ils se mettent en ordre de marche, et c'est un temps industriel, bah, les voitures électriques, faut les fabriquer maintenant. Donc, ils ont pas le choix.
Vous pouvez nous dire pour qui vous aviez voté ou pas ?
Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, ce qui est bien dans ce vote, c'est que c'est public. Donc vous avez les notes et vous avez même les commentaires qui sont publics pour que ça soit complètement transparent. Moi, j'avais voté pour l'ID.Buzz parce que je trouve qu'il n'y a plus de voiture familiale. Donc c'est une grande voiture familiale et qui est quand même assez sympa. J'ai essayé, je me suis fait arrêter 50 000 fois dans la rue. Elle arrive deuxième, je crois, de l'élection. On n'a pas encore tous les détails.
Oui, c'est ça, deuxième.
Franchement, elle marque les esprits. Et je pense qu'il y a aussi de la place pour les véhicules
familiaux.
On n'en trouve plus aujourd'hui. Vous savez, l'espace, avant, il y a l'espace, le Scénic.
Et pourquoi on n'en trouve plus ?
Parce que ça coûte trop cher à fabriquer, c'est passé de mode, on préfère les SUV. Donc, résultat des courses, les gens achètent des véhicules d'occasion, même de plus de 15 ans. Ça cartonne en occasion, on recherche des voitures familiales. Donc je trouve que c'était un bon signe d'avoir une voiture familiale en plus assez sympa, au look sympa.
Vous nous rappelez la voiture de l'année ?
Eh bien, c'est l'Avenger de Jeep. Voilà, il va falloir s'y habituer. 100% électrique, une Jeep électrique, vous imaginez ?
Merci beaucoup.
100% électrique, c'est ça qui est peut-être difficile pour le consommateur.
Ah, ouais. Surtout pour recharger.
En tout cas, pour Pascal Praud, c'est pas vraiment convaincant, vous l'aurez compris.
12h49, nous allons parler littérature, et ça c'est infiniment plus convaincant avec Bernard Lehu.
Électrique ou pas à la littérature, non, je ne sais pas.
Aussi, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Vous le savez, on s'intéresse aujourd'hui au Grand Prix RTL Lire avec vous, Bernard Lehu, un vrai prix de lecteur. Il est bon de le rappeler et l'un des plus recherchés.
Avec les 5 romans finalistes de l'édition 2023 qui ont été désignés hier, Bernard.
Oui, et le lauréat sera élu donc par 100 lecteurs choisis par les 20 librairies partout en France, partenaires du prix. Résultat, notez-le bien, le 27 mars sur cette même antenne.
Et on a croisé Philippe Labro avec qui vous étiez hier en réunion pour, évidemment.
On a joué à nos petits concours dans la salle à manger de l'immeuble en face.
Donc parmi les finalistes, l'immeuble en face, bien sûr, c'est M6. Parmi les finalistes, on retrouve deux livres dont on a déjà parlé dans RTL Midi.
Mais oui, Les sources de Marie-Hélène Lafont, l'histoire d'une paysanne victime des violences de son mari, on en a parlé la semaine dernière, et Crépuscule de Philippe Claudel, le meurtre mystérieux d'un curé aux confins d'un empire au bord du déclin. Autre finaliste, L'heure des femmes d'Adèle Bréau, la petite fille de Minnie Grégoire, qui raconte sa grand-mère, voix historique de RTL, pionnière de la libre antenne féminine. Elle était l'invitée d'Amandine Bégaud à 7h50 aujourd'hui. Et puis, Fille en colère sur un banc de pierre, ça s'est signé à Véronique Ovaldé, une jeune femme chassée par sa famille, revient à la mort du père. Elle revient pour le meilleur ou le pire, à vous de voir.
Vous venez de nous en donner 4, il y en a 5. Le dernier
roman... Comptez bien.
Ouais, j'essaye de suivre. Le dernier roman sélectionné, c'est celui de Gaëlle Nohant, son titre « Le bureau d'éclaircissement des destins ».
Oui, alors on va s'attarder davantage sur ce livre, magnifique titre. Hein. Eh bien, ce bureau, il existe en Allemagne. Il s'agit du plus grand centre d'archives sur les victimes des déportations nazies. Gaëlle Nohant.
J'ai découvert par hasard l'existence de ce centre d'archives, dont j'ignorais tout. Depuis 2016, il restituait des objets qui avaient été retrouvés dans les camps à la Libération et qui étaient des objets sans valeur marchande, avec une valeur surtout symbolique et affective. Et ce sont des enquêtes très particulières qui ne se font pas à la demande des descendants, mais où il s'agit de retrouver les descendants des propriétaires de ces objets pour leur remettre un beau jour à l'improviste, sans qu'ils s'y attendent, un message du passé qui est très fort, quoi. Et je trouvais ça tellement beau. Et puis ça me donnait les coups des franches pour inventer des histoires et des enquêtes et des personnages avec des thématiques que je pouvais choisir.
Alors Gaëlle Nohant crée le personnage d'Irène, archiviste française, qui travaille dans ce centre et qui va donc mener 3 enquêtes parallèles pour retrouver à qui appartenait une poupée de chiffon, un médaillon, un mouchoir brodé et identifier les descendants de ces disparus dans les camps. C'est palpitant, ça se lit comme autant de polars et c'est bouleversant aussi, bien sûr. Exemple, le destin d'une héroïne de ces 3 histoires, Vita.
C'est une femme qui avait des chances de survivre et qui décide de mourir avec un petit garçon juif qui est condamnée à la chambre à gaz. Donc elle fait ce choix et c'est comme ça qu'on la rencontre très vite dans le roman. On la rencontre par ce choix fondamental de décider de mourir avec cet enfant pour ne pas l'abandonner à cette mort affreuse. Et donc on va petit à petit découvrir quel genre de femme elle est. Qu'est-ce qui l'a menée à ce choix? Elle n'était pas prédestinée à cet héroïsme, hein, c'est, voilà, et à ce sacrifice-là. Et c'est un personnage que j'aime énormément parce que, à la base, c'est pas une héroïne, mais elle recèle une force incroyable qui est aussi la force de l'amour et de la douceur.
Gaëlle Noah a la réputation d'effectuer un gros travail de documentation pour chacun de ses livres. Est-ce le cas pour celui-ci?
Alors, si ces enquêtes et ces personnages sont fictifs hein, dans ce livre, le contexte historique, lui, est rigoureusement exact. Elle nous rappelle, par exemple, le sort tragique des enfants enlevés, volés à leurs parents déportés.
Les enfants qui étaient enlevés, c'était des enfants aux traits ariens. Et plus ils étaient ariens, plus on voulait les faire adopter par des bonnes familles allemandes. C'est vrai que ces enfants, encore aujourd'hui, ne sont pas tout à fait considérés comme des victimes, alors qu'ils le sont bel et bien. Je trouvais ça très intéressant de vraiment braquer mon projecteur romanesque sur l'un d'entre eux.
Alors, 200 000 enfants ont été ainsi enlevés hein, pendant la guerre. Seuls 25 000 d'entre eux ont retrouvé leur vraie famille après la guerre.
Bernard, en évoquant ces traces de la barbarie nazie, Gaëlle Noah mêle aussi le quotidien de son archiviste enquêtrice, Irène.
Oui, alors ça aurait pu paraître déplacé, anecdotique. Eh bien non, c'est réussi. On s'attache réellement à cette femme d'aujourd'hui et à cette mère d'un fils qu'elle élève seule. Une femme qui ressemble à son auteur.
Absolument. J'ai donné à Irène l'angoisse que je peux avoir pour ma propre fille et je pense que beaucoup de parents ont d'élever des enfants dans un monde qui est quand même assez violent qui ne va pas tout à fait dans le bon sens maintenant, où la liberté des femmes est en danger chaque jour, où c'est pas très agréable d'élever des enfants dans ce monde-là. Et comment on les prépare à ça? Qu'est-ce qu'on leur donne? Comment on les arme? Comment on leur donne aussi une forme de liberté et d'insouciance sans laquelle on ne peut pas vivre?
Vivre, bah c'est peut-être le verbe qui résume le mieux finalement ce livre qui part pourtant d'un sujet difficile. Bah c'est vraiment parfaitement réussi. Gaëlle Noah publie Le Bureau d'éclaircissement des destins, sans doute l'un des plus beaux titres aussi de cette rentrée d'hiver. C'est publié chez Grasset et c'est donc l'un des cinq livres finalistes du Grand Prix RTL Lire.
Vous avez beaucoup de coups de cœur en ce début d'année. Hein.
C'était une très bonne rentrée, hein, je trouve. Et c'est souvent le cas de la rentrée d'hiver.
Et on peut le lire ce week-end, bien évidemment, puisque c'est en librairie.
C'est en librairie.
Ouais, ça, c'est important. Il y a une question que je rêve de vous poser depuis bien longtemps, Bernard Lehu. Quand on aime les livres, vous en avez beaucoup, j'imagine, dans votre maison, il y a une question essentielle. Comment on classe ses livres dans sa bibliothèque?
Moi, alors, bêtement, j'ai commencé par un classement alphabétique. Et je dois dire que...
Par maison d'édition ou pas?
Non. Classement alphabétique des auteurs, hein, par auteur.
Et oui, par titre, c'est plus rare quand même.
Mais français, oui, étranger, mélangé.
Alors non, oui, il y a français d'un côté, étranger de l'autre. Mais enfin...
Mais vous mettez les romans avec les...
Il y a beaucoup de désordre.
Mais vous mettez les romans avec les essais, les biographies, vous mélangez tout?
Non. D'un côté, roman littérature, français, de l'autre étranger, et puis aussi autres rangements, littérature, enfin fiction.
Est-ce que vous arrivez à jeter des livres?
Ben, il le faut, de temps en temps.
Oui, mais est-ce que vous y arrivez?
Mes murs et la bibliothèque, tout ça n'est pas extensible. Bah, avec un petit pincement au cœur, mais ou alors après on peut aussi donner.
Les faire vivre, c'est ça, les donner.
Bien sûr, mais on rechigne toujours à jeter un livre. Oui. On n'ose pas.
Et il y en a certains qu'on va garder pour toute la vie.
Bah un jour, vous nous ferez un sujet complet. Comment classer sa bibliothèque?
J'ai cru qu'un jour, on allait faire l'émission chez vous.
Mais bien sûr, mais comment classer sa bibliothèque? Voilà un vrai sujet. Et ça rendit tellement sur les uns et les autres, la manière dont on les classe. Merci en tout cas, Bernard. Merci beaucoup. Il est 12h59. On revient avec les infos dans une seconde. Et puis, on part avec les auditeurs. RTL Midi.